17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour! Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir, le grand déballage, l'émission en direct, en live. Nous sommes vendredi tranquillement ici, vous êtes chez vous, paisiblement à préparer votre long week-end puisque lundi est férié, Pentecôte. Oui, oui, oui. Beaucoup s'apprêtent d'ailleurs à emprunter les routes de France pour aller profiter de ces 3 jours. Vous avez bien raison. Eh bien, nous, on va vous proposer aujourd'hui, pour vous accompagner, à la fois, évidemment, durant votre trajet, mais également aussi assis chez vous, tranquillement, sereinement. Au sommaire de cette émission, plein de bonnes choses. Hein. Le programme, il est assez riche. On va recevoir d'abord un ouvrage qui s'intitule « Politique Burke Burke ». Tiens, tiens, est-ce que ça ne devient pas un peu Burke ? On va en parler avec un ex-élu, justement, de Corbeil, qui viendra décrypter tout cela pour nous. Tout à l'heure, c'est Pierre Aski, le président de France, le président de Reporters sans frontières, je vais y arriver. Mais surtout, le chroniqueur vedette de France Inter sera avec nous tout à l'heure pour décrypter, analyser l'actualité, vous savez, au Proche-Orient, notamment le conflit français à Jérusalem-Est. Évidemment, nous allons nous intéresser à cela et regarder que se passe-t-il vraiment. 17h30, c'est le billet d'humeur, vous le savez, de Pascal Boniface, le géopolitique au cœur de notre émission. 18h, maître Henri-Philippe Honegger, qui viendra aussi avec son billet d'humeur. Et enfin, Majid, c'est aussi le docteur, le doc, à 18h45, viendra, lui, nous débriefer l'actualité de la semaine. Et puis les débatteurs seront là de 17h30 à 19h, comme chaque vendredi, pour confronter leur point de vue. Ils viendront évidemment clasher certainement, polémiquer peut-être, mais surtout vous apporter un regard sur les 4 sujets qui ont retenu notre attention. On ira direction Jérusalem-Est. Ensuite, le conflit. Ensuite, la manifestation des policiers. Mais également aussi le retour de Benzema qui provoque, vous savez quoi, qui agite. J'ai mon réalisateur qui dit « Merci mon Dieu, il a raison ». Moi, en tout cas, je suis un fouteux. Je suis assez favorable pour que Benzema retrouve l'équipe de France. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai, le mec, c'est le meilleur joueur en ce moment. On ne peut pas dire qu'il n'a pas sa place. Arrêtons de déconner à un moment donné. Et puis, c'est le seul leader qui réunit tous les jeunes des quartiers confondus. C'est vrai. J'ai toujours vu ça, moi. Donc, à un moment, il faut voir, il faut raisonner football et pas politique. Allez, c'est parti. Et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
L'interview de la semaine.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
Politique Burke Burke, tiens tiens, c'est avec un ex-élu de Corbeil. Certains diront, curieux, je vais accueillir Ulysse Rabaté, bonjour.
Bonjour Adil.
Merci d'être avec nous Ulysse Rabaté, vous avez écrit cet ouvrage que j'ai lu. Bravo tout d'abord, Politique Burke Burke, les quartiers populaires et la gauche. Conflit. Esquive, transmission aux éditions du Croquant, avec une préface de Nadia Marzouki. Alors, pourquoi vous avez écrit cet ouvrage après 10 ans, après avoir passé 10 ans dans l'opposition à Corbeil-Essonnes? Vous aviez envie de vider votre sac? Dites-moi, Ulysse Rabaté.
Bon, vider le sac, non, parce qu'il y avait la volonté, évidemment, de raconter une expérience dans un contexte explosif et un peu exceptionnel qui était celui de Corbeil-Essonnes, donc d'avoir raconté un combat contre la corruption et essayer d'en tirer quelques leçons sur la gauche qui a à construire. Donc vider mon sac, non, parce que je l'ai fait avec enthousiasme et optimisme.
On en parle justement. Est-ce que en ce moment même, quand on est en train d'assister à la conjoncture actuelle politique, on commence à sortir évidemment de ce Covid tout doucement, timidement d'ailleurs, avec une politique qui est d'ailleurs très critiqué, un gouvernement et des politiciens évidemment qui sont jugés à la loupe, qui sont scrutés, qui sont aussi, comment dirais-je, très extrêmement commentés sur les réseaux sociaux. Ma question est très simple, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un rejet de la chose politique, Ulysse Rabaté?
Bon, en tout cas, tout le monde ne sort pas timidement de la crise sanitaire, hein, puisqu'il y en avait quelques-uns devant l'Assemblée nationale avec les syndicats de policiers qui n'étaient pas très timides, et pour dire beaucoup donnent rien, y compris des responsables qui se prétendent de gauche. Donc la question, c'est le rejet de la politique et en effet la mise en cause de la parole politique. On en a vécu une période très importante pendant la crise sanitaire et à juste titre, puisqu'on a eu un gouvernement qui a quand même dit à peu près tout et n'importe quoi et a aussi beaucoup contraint la population avec des décisions qui étaient souvent très contestables. Donc évidemment, on sort d'une période où on peut se poser la question de la légitimité de la politique. Et cette question-là, pour moi en tout cas, elle se pose singulièrement à la gauche, puisque l'inscription, le
processus historique... Je vous la pose la question. Ouais. Est-ce que la gauche est toujours légitime dans les quartiers populaires, comme dans les années 90, 80, 95 ouais.
Il faut en tout cas qu'elle interroge sa propre légitimité, puisque c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque élection, notamment présidentielle, la gauche fait des gros scores dans les quartiers. Mais en même temps, on voit bien que il y a besoin de se remettre en cause et que ce mariage, il y en a beaucoup qui le contestent et qui le contestent à juste titre. Et donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à changer d'ici l'année prochaine pour que la gauche retrouve de l'écho dans les quartiers.
Et est-ce que la gauche s'interroge justement ? J'ai pas l'impression, mon cher Ulysse Rabaté. Ça vous fait sourire ?
Ça me fait sourire parce que de toute façon, il faut pas demander à la gauche de s'interroger. Il faut surtout en fait compter sur nous-mêmes et compter sur les personnes qui agissent au quotidien, notamment dans les quartiers.
N'est-elle pas dans le déni, politique. Mon cher Ulysse ?
Non, je pense qu'il y a une partie de la gauche qui est capable d'entendre ce qui se passe dans les quartiers. On voit bien que des gens comme Jean-Luc Mélenchon ont affirmé ne pas vouloir, par exemple, être devant l'Assemblée nationale avec les syndicats de policiers ouvertement de droite. Donc je pense qu'il y a des choses qui bougent quand même, qu'il y a une partie de la gauche qui entend ce qui se passe dans les quartiers, et il y en a une autre qui est complètement dépassée, qui est complètement passée à côté de ce rendez-vous historique.
Mais disons-le clairement, Ulysse Rabaté, est-ce que les habitants, et notamment cette nouvelle génération qui s'apprête à voter prochainement au régional et aux élections présidentielles, surtout, est-ce qu'elle se sent de gauche ?
Elle se sent pas de gauche, en tout cas, comme vous parliez tout à l'heure des années 80 ou des années 90. Ce qui est sûr, c'est que elle se retrouve plus dans les gros mouvements qui avant structuraient la gauche. Elle est beaucoup plus, la jeunesse notamment, elle est beaucoup plus autonome, elle est beaucoup plus indépendante. Elle revendique de faire de la politique de manière très différente qu'hier, avec de nouveaux codes. Et je pense que justement l'enjeu là des temps qui viennent, c'est de savoir est-ce que ça peut rencontrer une conception peut-être un peu plus traditionnelle de la politique, qui n'est pas morte, mais qui doit bien changer.
Qui l'emporte aujourd'hui parmi les figures politiques ?
Dans les quartiers ?
Oui, dans les quartiers populaires.
Bah, écoutez, vous parliez tout à l'heure de Benzema, je pense que c'est une figure politique assez légitime dans les quartiers. Non, mais blague à part, moi je pense que des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, comme Olivier Besancenot, continuent d'être des repères dans les quartiers populaires, et je pense que c'est important d'avoir des repères politiques, des gens qui incarnent une parole politique et un idéal de justice, de solidarité, de combat aussi contre l'injustice du monde. Donc je pense qu'il y a des repères politiques, mais évidemment, il y a besoin aussi qu'une nouvelle génération s'impose dans le champ politique, qu'elle vienne chambouler un petit peu l'ordre établi. Et de ce point de vue-là, moi je sais, c'est mon expérience aussi, de voir plein de gens qui sont des experts politiques ou des expertes politiques à leur manière, qui agissent tous les jours dans les quartiers. Et eux, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils rentrent dans le game politique.
On n'est pas tout simplement en train d'assister à la disparition de la gauche, tout court.
La disparition, je pense que c'est un peu dur. Par contre, la transformation, oui, certainement. Il y a une transformation qui s'impose à la gauche. On voit bien que des gens, par exemple, comme Olivier Faure, qu'on entendait pour le PS hier devant l'Assemblée nationale, on sent que des gens comme ça, ils n'ont plus rien à voir ni avec la gauche, ni avec l'histoire populaire de la gauche. Et donc, oui, je pense qu'il y a une partie de la gauche historique qui va sans doute disparaître des radars, mais heureusement.
Vous avez été élu, je le disais tout à l'heure, 10 ans. Élu d'opposition à Corbeil-Essonne. Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience, notamment dans votre chapitre, page 67, vous faites référence à ces cocos aux milliardaires. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que vous en tirez finalement ?
C'était 10 ans de combat à Corbeil-Essonne, notamment contre un système de corruption qui a fait la une de tous les médias.
Avec l'empire industriel d'Assaut.
Avec l'empire industriel d'Assaut et les pratiques qui ont été condamnées par la justice, un système d'achat de voix mafieux. Donc c'est d'abord un combat qui interroge la place de la corruption dans nos régimes politiques et comment on les combat et la corruption, on la combat d'abord avec justement un idéal de la société qui se travaille, avec des idées qui viennent de l'histoire de la gauche, mais des idées aussi qu'il faut qu'on invente et l'enseignement de ces années de combat, même si le combat il continue évidemment, c'est que il y a besoin de construire avec la force du terrain.
Je vous ai posé la question, Ilyse Rabaté, vous savez, parce que tout simplement, vous allez comprendre le sens de ma question, vous avez fait référence à la corruption. Ma question est très simple. Aujourd'hui, comment en finir avec le clientélisme qui est toujours présent à chaque élection, évidemment, municipale, régionale, mais surtout avec cet ancrage municipal?
Oui. Alors, moi, je pense que le combat, ça a un petit peu sauté quand vous m'avez posé la question, hein. Mais le combat politique, vous me parlez de l'ancrage territorial de ce combat?
Et le clientélisme?
Ah oui, la place du clientélisme. Bah, c'est vrai que Corbeil, pour ça, c'est un idéal type, comme on dit en sciences sociales. C'est-à-dire qu'il s'est passé à Corbeil, dans des proportions assez incroyables, ce qui se passe dans d'autres villes, notamment dans nos banlieues. Et la responsabilité, c'est sur des personnalités politiques, souvent de droite, hein, il faut bien le dire, qui ont considéré nos villes populaires comme des terrains de jeu ou des terrains à récupérer à la gauche et qui ont usé de toutes les pratiques et aussi tissé des relations avec le monde, notamment comme ça s'est fait à Corbeil, avec le monde du banditisme, pour combattre finalement même l'idée même d'intérêt général et de service public et de récupérer des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics à des fins individuelles.
Il y a un chapitre, c'est la troisième partie, vous parlez de politique comme culture populaire. Qu'est-ce que vous vouliez nous transmettre comme message, notamment avec cette phrase qui revient régulièrement, on va se croiser?
Ouais, on va se croiser. On va se croiser, c'est une phrase qui revenait souvent à mon égard, notamment dans la rue à Corbeil, de la part aussi de gens qui revendiquaient le fait que la politique, elle était aussi dans la rue et que le monde politique est pas isolé des tensions du monde social et de la rue. Et ça, je pense que même si c'est pas forcément agréable à entendre, en même temps, c'est une idée importante. Hein, c'est-à-dire que la politique, c'est la vie des gens, donc il y a pas de raison de se sentir protégé ou autonome du reste de la société.
Oui.
Et ensuite, l'idée de politique comme culture populaire, c'est quelque chose de simple. C'est que moi, j'observe l'effondrement de la politique institutionnelle et en même temps, j'observe aussi le renouveau de la politique dans la société, sur le terrain, dans les pratiques populaires. Et donc, je me pose cette question simple. Est-ce que l'avenir de la gauche, c'est pas justement de s'inspirer de ce qui se passe dans la culture populaire? Vous parliez tout à l'heure de personnalités comme Benzema. On voit, par exemple, le dernier clip de la FFF avec le son de Youssoupha autour de l'équipe de France et de cette nouvelle idée du pays qu'on essaie de construire. Est-ce que ces choses-là peuvent pas constituer des nouveaux socles intellectuels, culturels, politiques pour la gauche?
Justement, la politique comme culture populaire. Alors, c'est vrai que l'extrême droite est extrêmement commentée et puis les médias aujourd'hui se sont emparés, si vous voulez, Ilyse Rabaté, de la question. Est-ce que la politique n'est pas en train de devenir populaire, voire, évidemment, là, on sombre dans la vox pop?
Bon, malheureusement, il n'y a pas que les médias qui récupèrent les discours de l'extrême droite. Il y a aussi une partie du champ politique, et ça, c'est un véritable problème. Pour moi, ça, c'est pas un problème populaire, hein, c'est un problème politique et issu aussi du champ politique. C'est-à-dire que, moi, mon hypothèse, c'est aussi que dans la société et dans la culture populaire, il y a justement... la réponse, la réaction, l'opposition à la montée des idées de l'extrême droite et que, justement, peut-être que ça, le champ médiatique,
est-ce
le champ politique ne l'entend pas.
Est-ce que le populaire n'est pas tout simplement en phase d'être emporté par l'extrême droite?
Moi, la théorie du livre, c'est justement le contraire. C'est que c'est justement parce que la culture populaire n'est pas encore assez rentrée dans la politique que l'extrême droite est si forte aujourd'hui.
Oui.
Et au contraire, moi, je pense que le combat contre l'extrême droite, contre le racisme... tout ce combat-là qui est finalement aussi le combat à l'ADN historique de la gauche, pour le retrouver, il faut justement aller chercher ce qui se passe dans la société, dans la culture populaire, et on voit que il y a énormément de résistance à la montée de l'extrême droite, et la conclusion du livre, dans la perspective de 2022, c'est de dire que notre salut en France, il viendra sans doute des quartiers populaires pour lutter contre l'extrême droite.
Justement, 2022, les élections présidentielles, ça va pas être un peu le chaos?
Il y a le risque du chaos, comme en boxe aussi d'ailleurs, hein, du chaos aussi en boxe. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a beaucoup de risques, mais comme en boxe aussi, il va falloir prendre un peu des risques, il va falloir être offensif. Et comme je vous le dis, moi, je pense que le meilleur moyen de combattre le scénario terrible entre Macron et Le Pen, c'est justement de faire confiance à ce qui se passe au sein de nos quartiers populaires, ce qui se passe dans la société, justement, au combat permanent et quotidien que les gens mènent contre les idées d'extrême droite.
Alors, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message quand on pense à politique Burk-Burk?
Ben, politique Burk-Burk, c'est une provocation, mais justement, la recette contre le Burk-Burk, elle est dans l'engagement politique, dans l'engagement pour le collectif. Et justement, la leçon du livre, c'est aussi de se dire que ceux qui ont intérêt au Burk-Burk, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et donc, nous, on a tout intérêt, au contraire, à revaloriser la politique et à montrer tout ce qu'il y a de beau à s'engager pour les autres.
Eh bien, allez-vous procurer le livre, son ouvrage, l'ouvrage d'Ulysse Rabaté, édition du Croquant avec la préface de Nadia Marzouki. Les quartiers populaires, la gauche, conflit, l'esquive, les transmissions, bref, tout savoir, les coulisses de la politique, notamment partagées par un ex-élu d'opposition sur Corbeil-Essonne. Merci Ulysse Rabaté.
Merci pour l'accueil, Adil, merci beaucoup.
Au plaisir, à bientôt. 17h17, 16 même précisément. Tout de suite après la pub, on se retrouve avec Pierre Aski, la vedette de France Inter, qui viendra nous livrer son analyse sur le conflit et les tensions qui règnent au Proche-Orient. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 17h24 précisément, même d'ailleurs 17h25, si vous voulez de nous rejoindre. D'ailleurs, dans le grand déballage en direct, nous allons poursuivre l'interview de la semaine et cette fois-ci, on parle du conflit israélo-palestinien.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
Je suis avec Pierre Aski. Bonjour, mon cher Pierre Aski.
Bonjour, Adil.
Bonjour, Pierre Aski. Très bien. Heureux de vous retrouver sur l'antenne, sachez-le. Et notamment sur BFM, le chroniqueur vedette qui parle de géopolitique tous les matins sur France Inter. C'est à
8h17. 17, exactement.
Voilà. Rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer. Mais vous êtes également aussi le président de Reporters sans frontières. Pierre Aski, reporter, grand reporter, journaliste, dites-moi, on va commenter ensemble le conflit israélo-palestinien. Alors, ces nouveaux affrontements entre Palestiniens, Israéliens, vous savez, ont donné lieu à beaucoup d'heures sur l'esplanade des mosquées. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut apporter, si vous voulez, analyser ce qui se passe en ce moment avant de trouver un accord, un début d'accord, Pierre Aski?
Alors, il y a plusieurs manières de regarder le conflit. Il y a le plus immédiat, le plus spectaculaire, le plus chaud, c'est évidemment le conflit militaire entre le Hamas et Israël qui s'est déroulé au cours des 11 derniers jours, qui a été catastrophique sur le plan humanitaire pour les habitants de Gaza, pour une partie de la population israélienne qui a vécu dans la peur. Bref, c'est la guerre. Mais je pense que c'est une manière limitée de regarder, parce que ce qui s'est passé pendant toute cette période, et il faut remonter plus loin que le début de ces affrontements, il y a eu toute la problématique autour de Jérusalem, qui a été extrêmement importante, et dans une certaine mesure, le déclenchement des hostilités par le Hamas a stoppé quelque chose qui était en train de naître à Jérusalem et qui était d'une autre nature au niveau de la société civile. Et d'autre part, il y a eu ce phénomène qui, à mon avis, va laisser des traces et est un phénomène politique très important. C'est le fait que les Palestiniens de tous les statuts, si on veut employer ce mot, c'est-à-dire ceux de Cisjordanie, ceux de Jérusalem-Est, ceux de Gaza et ceux de 48, c'est-à-dire les citoyens israéliens, ont été unis pendant cette période, y compris dans une grève générale.
Mais dites-moi, Pierre Aski, est-ce que c'est pas au cœur justement de ce conflit la colonisation de Jérusalem-Est qui se retrouvait finalement au cœur de ces tensions, Pierre Aski?
Oui, c'est ça qui a déclenché l'engrenage de la confrontation. C'est-à-dire, ce sont des petites choses, c'était pas un phénomène très important. On parlait de 14 familles qui menaçaient d'être expulsées, mais qui sur lesquelles se sont finalement focalisées toutes les frustrations palestiniennes de ces dernières années.
Sauf que les affrontements ont été violents. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, Pierre Aski.
Oui, mais il y a eu la coïncidence, et je pense que les autorités israéliennes doivent le regretter aujourd'hui, entre la tension qui montait dans le quartier de Sharshara à Jérusalem-Est et les tensions autour de l'esplanade des mosquées et de l'accès au lieu saint pendant la période du Ramadan, puisque en fait, ce qui a rajouté à la tension, c'est lorsque les autorités policières ont changé les règles de l'accès. La porte de Damas, qui est la principale entrée pour les Palestiniens à Jérusalem-Est pour aller vers l'esplanade des mosquées. Oui. Il y a une grande esplanade à l'entrée où les jeunes restent des heures le soir à discuter, etc. Et la police a mis des grillages pour empêcher les jeunes de rester. C'est ça qui a été l'accumulation de tensions et ensuite c'est passé à Gaza.
Mais que cherche finalement Benjamin Netanyahou qui dit lui-même assurer ne pas exclure de devoir venir à bout du Hamas. Au fait, il joue à quoi ? Il cherche quoi ?
Mais personne ne le croit quand il dit ça. Il y a peut-être une partie de son électorat qui le croit parce qu'ils sont prêts à le suivre n'importe où. Mais il est clair qu'il n'en a pas les moyens et il n'en a même pas l'ambition. S'il avait eu cette ambition, il serait allé reprendre Gaza avec une opération terrestre. Or, l'armée israélienne ne veut pas se lancer dans une telle opération. Non, ce qui se passe, c'est que Benjamin Netanyahou est au bout du rouleau politique et donc il a utilisé toutes les ficelles possibles et imaginables pour rester au pouvoir. Il y a quand même eu 4 élections consécutives où il n'est pas arrivé à constituer une majorité durable. Il a ses problèmes judiciaires qui sont des casseroles extrêmement lourdes et donc il a joué la dernière carte qu'il avait, qui était celle de l'extrême droite. Il a permis à l'extrême droite israélienne la plus dure de rentrer au Parlement à la Knesset. Et c'est cette extrême droite qui s'est sentie des ailes et qui a joué la provocation à Jérusalem-Est.
Ma dernière question, Pierre Aski. On parle beaucoup d'accords de paix, et cela depuis des années. La diplomatie, toutes les diplomaties s'activent pour une trêve, dans tous les sens du terme, effectivement, y compris le président Joe Biden. Et puis d'autres ont appelé de leurs vœux pour un accord de paix. Mais est-ce qu'on peut finalement, je vous pose, vous, spécialiste du Moyen-Orient, rappelons-le quand même, Pierre Aski, est-ce qu'on peut espérer un accord de paix un jour ?
Alors, en tout cas, pas tout de suite. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les diplomaties se sont activées pour obtenir un cessez-le-feu.
On dit que c'est grâce au Qatar. Est-ce que c'est vrai ?
Mais pas un accord de paix. Alors, c'est l'Égypte en grande partie, le Qatar... Qui a un lien particulier avec le Hamas, qui a aussi été actif. Mais c'est l'Égypte qui a été un peu la plaque tournante de la diplomatie. Mais il faut être clair, ce qui se passe en ce moment, c'est un cessez-le-feu. Ça n'est pas un accord de paix.
Oui, oui.
Et donc, aujourd'hui, moi, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez, qu'il n'y aura pas de lendemain à ce cessez-le-feu. Il n'y aura pas de processus de paix, en tout cas pas dans un avenir proche, parce que les conditions ne sont pas remplies du côté israélien. Il n'y a pas de gouvernement stable, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de volonté même de s'engager dans un processus de paix. Et il n'y a pas les conditions non plus du côté palestinien, entre Mahmoud Abbas à la tête de cette autorité palestinienne qui est en déliquescence, le Hamas qui est en train d'essayer de s'imposer politiquement du côté palestinien, et une jeunesse palestinienne qui ne se reconnaît pas véritablement dans toute cette classe politique ou ces acteurs politiques et qui voudrait autre chose. Donc le climat n'est pas très propice à un accord de paix. Oui. Pourtant, il est clair qu'il en faut un. Il faut sortir de cette... engrenage perpétuel de conflits, guerres, occupations, colonisations et rien à l'arrivée, sinon la souffrance et la misère.
C'était un plaisir d'avoir été avec nous dans le grand déballage, mon cher Pierre Aski. Je le rappelle d'ailleurs, vous êtes la vedette de France Inter pour la géopolitique, tous les jours, 8h17, rendez-vous sur France Inter. Adil. Et puis le président de Reporters sans frontières. Au plaisir, mon cher Pierre Aski.
Merci Adil, à bientôt.
À bientôt, le quoi de neuf tout de suite.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Quoi de neuf, c'est la signature de Pascal Boniface. Bonjour Pascal.
Salut Adil, tu vas bien ?
Mais très bien mon cher Pascal. Vous voulez peut-être dire un petit mot là sur ce que vient de dire Pierre Aski ?
Oh bah oui, bravo. Enfin, je suis tout à fait en face. J'ai beaucoup de respect pour Pierre Aski.
Ah, moi j'ai un grand respect pour Pierre Aski, que je connais de longue date.
Vraiment quelqu'un qui est à la fois d'une grande expertise et surtout d'une grande intégrité sur ces questions-là. Et vraiment, chapeau, c'est bien que des gens comme Pierre Aski existent et c'est bien qu'ils aient une chronique sur France Inter.
Pascal Boniface, vous, le spécialiste de la géopolitique et notamment grand amateur de football, vous avez décidé de parler de Karim Benzema. Karim Benzema oui. Et son retour en équipe de France, on vous écoute.
Voilà, en fait, ouais, moi, j'ai décidé de ne pas dire la même chose de ce qui a été très bien dit par Pirassi, parce que, en fait, si j'avais pas eu le Proche-Orient, j'aurais dit exactement la même chose, donc c'est pas la peine de doublonner. Oui, le retour de Karim Benzema en équipe de France, ça me fait plaisir pour plein de raisons. Ah. Ça me fait plaisir pour ceux à qui ça va faire plaisir, et ça me fait plaisir pour ceux ça va faire chier. Parce que finalement, tous les racistes, tous les l'extrême droite, même s'ils disent de gauche, qui ne voulaient pas lui, voilà, pour des raisons très souvent racistes, bah, ça les fait chier, c'est très bien. Et pour tous les amateurs de foot qui aiment bien le foot, se dire « Ah, quel bonheur !» Avoir un trio, Griezmann, Mbappé, Benzema, c'est génial, c'est génial. Et vraiment, on va vraiment kiffer, ça va faire une super équipe de France. Et puis, vraiment, c'est très bien. Donc, ça me fait plaisir pour ceux qui ont plaisir, et ça me fait plaisir pour ceux qui s'attachent chier. Et le vent, malentendu. Le vent, malentendu, a dit, ce n'est pas, contrairement, et moi, j'ai souvent discuté, certains disaient, il n'est pas en équipe de France parce que Deschamps a cédé aux racistes. Non, c'est pas pour ça que Deschamps l'a pas retenu. C'est pour d'autres raisons, une incompréhension sur une nouvelle que Karim aurait dû donner à Deschamps qu'il n'a pas donné, une incompréhension entre les deux hommes, et c'est pas du tout pour des questions de racisme. Deschamps est vraiment insensible au racisme, il l'a prouvé. Et donc c'est vraiment pour d'autres raisons qu'il n'a pas appelé. Et puis ce qui est bien, c'est que le malentendu a été levé. Ils ont discuté, ils se sont expliqués, et que Deschamps finalement, et beaucoup de nos hommes politiques devraient quand même en tirer leçon et prendre exemple, eh bien, il a fait passer ses différents personnels avec Benzema derrière l'intérêt supérieur de l'équipe de France. Et je veux dire, ça, c'est quand même un bel exemple. Ils ont finalement vidé leur querelle personnelle, ils se sont expliqués, c'est très bien, et au nom des intérêts supérieurs de l'équipe de France, Deschamps est revenu et a donc rappelé Karim Benzema en équipe de France.
Mais dites-moi, mon cher Pascal Boniface, ça ne vous a pas échappé, Zidane a réagi aussi de ce retour de Benzema. Il a même d'ailleurs envoyé un message.
Oui, bah, disons que ça fait longtemps que Zinedine Zidane appelait au retour de Benzema. Alors que normalement, un entraîneur d'un club n'aime pas trop voir ses joueurs partir en sélection nationale. Mais ça fait longtemps que Zinedine Zidane appelait pour le retour de Benzema à l'équipe nationale. Et ils ont une liaison particulière. Et puis, disons, Benzema a quand même sauvé la saison du Real cette année. Et donc, ça ne peut que faire plaisir à Zinedine Zidane de voir son meilleur joueur du Real être appelé en équipe de France. Et puis, je veux dire, c'est aussi une transmission. Zidane a certainement envie que l'équipe de France soit championne d'Europe.
Exactement.
Et elle a plus de chances d'être championne d'Europe avec Benzema que sans Benzema.
Moi, je suis d'accord avec vous. Vive le retour de Benzema, quoi qu'on dise, parce que 29 buts, faut le faire. 8 passes décisives, hein, en 45 matchs, toute compétition.
Et quel but!
Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait une excellente saison?
Ah ben, écoutez, l'an dernier, on se demandait, il n'y a pas eu de ballon d'or l'an dernier. Alors que beaucoup disaient qu'il aurait pu avoir le ballon d'or à cause du Covid, parce que il a fait une saison extraordinaire. Et donc là, ben, en fait, on a deux Français qui peuvent avoir le ballon d'or. Kylian Mbappé et Benzema. Et je pense qu'ils seront suffisamment intelligents et suffisamment patriotes, l'un et l'autre, pour s'entendre et porter au plus haut l'équipe de France. Petit rappel pour tous ceux qui disent Benzema. Benzema est fiscalement domicilié en France. Il paye ses impôts en France alors qu'il joue à Madrid.
C'est bien de l'avoir souligné, ça. C'est bien.
Beaucoup de ceux qui le critiquent feraient bien de réfléchir à ça.
C'est vrai, c'est bien. Contrairement aux préjugés, il paye bien ses impôts en France. Merci de l'avoir souligné. Pascal Boniface, bravo pour ce billet d'humeur.
Merci Adil, bon week-end, à vendredi prochain.
Avec autant de plaisir.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Eh oui, Pascal Boniface, on va décrocher tout de suite du côté de la pub. Je vais accueillir les débatteurs. Certains m'ont envoyé des messages qui sont en retard, ils sont coincés dans les bouchons. Pierre-Henri, bonjour. Comment ça va? Vous étiez retrouvé dans le périph, coincé?
Oui.
Un accident?
C'est infernal.
Ah ben dis donc, infernal. Mais c'est le départ des week-ends, les amis, il y a 3 jours. C'est le long week-end. Les Français en profitent.
Le déconfinement.
Oui, le déconfinement. Président de France Fraternité.
France Fraternité.
Là, j'ai tout de suite rattrapé. Mais vous êtes ici le chercheur à l'IPSE.
Oui, absolument.
Mais vous faites de la politique aussi, il faut le dire aussi.
Et puis juge à la CNDA.
Ah là là.
La Cour nationale du droit d'asile.
Exactement. Karim Alouache, bonjour.
Bonjour.
Financier, mais aussi, il fait de la politique sur la ville de Bondy.
Exactement.
Vous voulez revenir, hein, ça y est. C'est le retour de Karim, je veux dire, Benzema, que Karim Alouache.
Ah, le retour des Karim.
Les
Karim sont de retour. Et moi, je rappelle que j'avais lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour appeler au retour de Karim Benzema en équipe de France.
Ah, vous voulez, c'était il y a combien de temps?
Oh, ben, il y a à peu près deux mois.
C'est un talent pur.
Exactement.
Karim Benzema, quand même. 4 fois champion de France, oui. 3 fois d'Espagne, quatre ligues des champions. Oui. Enfin, franchement, comment on peut se passer d'un talent comme celui-là?
Pour une fois, je suis d'accord avec, évidemment, le sélectionneur de l'équipe de France. Oui, il a raison, effectivement. Jugeons le talent et sportivement. Allez, on va marquer une courte pause pub. On se retrouve dans une poignée de minutes, notamment avec un chercheur qui, lui, écrit un ouvrage, justement, sur le football. Et après, nos débatteurs pourront confronter leur point de vue sur le sujet qui ont retenu notre attention. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Vous venez de nous rejoindre, 17h45 dans le grand déballage sur Beurre FM. On va accueillir tout de suite, vous savez quoi, l'invité de la semaine.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
Stanislas Frankiel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue Stanislas Frankiel. Vous êtes historien, vous êtes maître de conférences, mais vous êtes surtout également le spécialiste du football. Justement, on parlait de football. Est-ce que, avant de parler de votre ouvrage, j'aimerais aujourd'hui que vous portiez simplement un peu votre regard sur l'arrivée de Karim Benzema en équipe de France. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ah, merci Adil, avant tout un grand bonjour à tous vos auditeurs, salutations aussi à mon ami Pascal Boniface. Alors l'arrivée de Karim Benzema en équipe de France, il faut la replacer dans une histoire longue qui commence en 1932. Le premier footballeur algérien en France, c'est Ali Benouna. Ouais. Alors ce qui est intéressant avec Benzema, son retour, c'est que l'équipe de France, comme toute équipe nationale, c'est un vecteur privilégié de construction imaginaire d'une communauté nationale. Le retour de Benzema, c'est le pardon du banni. Alors, au-delà du plan sportif, c'est incontestable, mais ce qu'on voit là, ce qu'on est en train de voir à un an de la présidentielle, c'est une France qui parle à une autre partie de la France, c'est la France des champs vers la France des quartiers. C'est une génération qui parle à une autre génération, et c'était quand même un geste d'apaisement à la fois sportif et peut-être aussi politique.
Et bien parlons justement sportif, parlons sport, Stanislas Frankiel. Alors vous avez décidé d'écrire un ouvrage, l'ouvrage concernant le football algérien. Pour quelle raison ?
Alors je me suis intéressé à l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France des années 30 à nos jours pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une histoire qui était méconnue. On connaissait bien l'histoire des élites culturelles, artistiques et autres, mais rien sur les élites sportives. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque coloniale, avant 62, il y avait quand même, il faut le rappeler à nos auditeurs, plus de 30 footballeurs professionnels algériens en France. Ouais. En D1 et en D2, il faut quand même le dire. Ensuite, la question de la binationalité est très importante avec l'Algérie, puisque l'Algérie est le premier pays, donc très précoce, à faire venir des joueurs binationaux et après qu'ils vont venir en masse renforcer l'équipe nationale. Donc, et puis dans mon travail, j'ai aussi voulu revisiter l'histoire de l'équipe du FLN.
Alors Stanislas Frankiel, justement, vous aviez l'envie de nous plonger justement dans l'histoire du football des immigrés, en quelque sorte ?
Tout à fait, à travers la publication de ma thèse de doctorat à Artois Presse Université, l'ouvrage « Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage », c'est 12 chapitres sur l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France. Avec vous, je pense que vous l'avez vu Adil, puisque vous avez l'ouvrage sous les yeux, c'est un ouvrage où il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents d'archives, un beau papier glacé et puis beaucoup de témoignages et de portraits.
Mais pourquoi mêler la politique et le sport aussi ? Parce que c'était une manière aussi de rappeler certaines choses ?
Parce que les politiques et sports sont intimement liés au-delà du cadre algérien. Mais en plus de ça, on sait très bien que dans le cadre franco-algérien, le football et le sport, et aussi le scoutisme d'ailleurs, sont des armes utilisées par les indépendantistes pour faire reconnaître la cause algérienne. Ensuite, on sait très bien ce qui s'est passé avec l'équipe du FLN, en tout cas je le raconte. Et après, il y a eu beaucoup de liens entre sport et politique. Le football est très politisé, notamment au Maghreb et en Algérie.
Qu'est-ce que vous voulez transmettre finalement comme message en direction de nos auditeurs quand on pense à votre ouvrage, quand on pense football, quand on parle décolonisation, quand on parle colonisation, quand on parle de tout cela, cher Stanislas Frankiel ?
C'est un ouvrage qui se veut un ouvrage passerelle, Adil. C'est un ouvrage passerelle entre la France et l'Algérie. C'est un Français qui a travaillé pendant 15 ans sur cette histoire des footballeurs professionnels. C'est une histoire faite de rencontres, de métissage, oui. Parfois de sang, mais aussi parfois d'amour, il faut le dire. Beaucoup de joueurs algériens, comme beaucoup d'immigrés algériens, ont aussi fait leur vie avec des Françaises, il faut le rappeler. Donc c'est un message de métissage.
Un message de métissage. Le dernier mot, pour donner envie évidemment à tous celles et ceux qui vous écoutent, pour aller partager votre ouvrage, le football des immigrés, le football France-Algérie.
Bah écoutez, je crois que c'est une histoire qui nous touche tous de près ou de loin. On est intimement liés à cette histoire. Qu'on ait grandi dans les années 60, 80, qu'on ait participé ou qu'on ait assisté au match France-Algérie de 2001, à la CAN 2019, oui. Tous ces éléments-là sont retracés dans l'ouvrage qui est publié chez Artois Press Université hein, sur le site.
Artois Press Université, on peut se le procurer partout, hein, il me semble. Hein.
On peut se le procurer partout, Amazon, Fnac, Le Furet du Nord, sur le site web de Artois Press Université. Là, il vient d'être réédité, donc la semaine prochaine, tous les stocks seront là.
Merci Stanislas Frankiel d'avoir été avec nous pour parler du football des immigrés France-Algérie. L'histoire en partage et je souhaite un beau succès à votre ouvrage. Merci.
Merci Adil, à bientôt.
Le grand déballage, l'interview de la semaine.
Allez, les quatre voix sont parmi nous. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour. Certains sont arrivés en retard, d'autres sont à l'heure, etc. Tiens, je vais commencer par Pierre-Henri. Pierre-Henri, celui qui est toujours parmi nous et notre grande gueule. Le président, le boss de France Fraternité, mais également aussi le chercheur à l'IPSE. Comment ça va mon cher Pierre-Henri ?
Eh bien, plutôt bien, mon cher Adil.
À ses côtés.
Dans une actualité très inconfortable.
Ah, mais complètement, complètement. D'ailleurs, on va accueillir un tout nouveau parmi nous. Il s'appelle Gilles Mihaeli. Moi, je le dis avec l'accent. Vous
très
me permettez
bien. Bah, bien sûr.
Allez, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir avec nous. Vous êtes le directeur de la publication du magazine Causeur, mais également aussi, vous êtes le patron de plusieurs... J'ai vu que vous étiez patron de plusieurs, médias.
On est le premier groupuscule de presse de France.
Ah oui, d'accord. Et pour quelle raison? Comment ça s'explique? Le succès.
L'envie, l'esprit d'entreprise.
Bah écoutez, on va en parler justement tout à l'heure. Ah, face à vous, un financier, Karim Alouache, bonjour.
Bonjour.
Mais également aussi acteur politique sur la ville de Bondy. Comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Dans une actualité très, très dense en ce moment.
Autre chercheur sociologue, c'est Thomas Guénolé. C'est aussi une autre grande gueule. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Jeune papa aussi, hein?
Oui, tout à fait.
Il vit des moments heureux. Il est bien là, il est tout papa choupinou.
Elle a bientôt 7 mois, effectivement.
Attention, je vous préviens, ça va très vite.
Je baigne dans les phéromones.
Je vous dis quelque chose, profitez-en grave maximum, parce que ça va à une vitesse pas possible.
On a prévenu que là, le prochain palier difficile à gérer, c'est quand elle va commencer à être capable de ramper partout.
Attendez, quand ça va commencer à marcher, là vous allez comprendre votre douleur.
Voilà.
Là vous allez voir que vous n'allez pas être un papa.
Et quand elle va chercher un stage après le doctorat.
Mais quand t'as mal acheté,
je vous raconte pas.
Ah oui, aussi, d'accord.
La douleur, c'est quand t'as à faire des achats sur Internet.
Ah, ça, c'est une grosse douleur, ça. Allez, messieurs, plus sérieusement, je voudrais parler, s'il vous plaît, comme l'a fait tout à l'heure Pierre Aski. Il m'a permis une belle transition. Pierre Aski, donc le chroniqueur spécialiste de la géopolitique sur France Inter, Jérusalem-Est, un cessez-le-feu, un accord en tout cas, évidemment, aux manettes, le Qatar d'un côté, les Égyptiens de l'autre, mais également aussi la communauté internationale. Messieurs, je voudrais distribuer la parole. Vous êtes libre d'enlever vos masques, je vous le dis, hein, si vous pouvez le garder, vous pouvez l'enlever. Ici, il y a la distanciation qui est respectée, donc il n'y a aucun problème. On a même ouvert la fenêtre. Messieurs, alors, d'abord, j'aimerais qu'on mette les pieds dans le plat. Il y a eu des heurts qui ont éclaté, tout le monde en a parlé, la semaine dernière j'en ai encore parlé. Franchement, ce cessez-le-feu, est-ce qu'il a un sens? Tiens, Gilles Mihaeli.
Bien sûr. D'abord, on arrête de se taper les uns sur les autres, on arrête le compteur de mort, on arrête le compteur de destruction. Évidemment que c'est mieux.
Oh, mais c'est mieux, est-ce que ça présage à un accord de paix? Ça fait 40 ans qu'on parle de cet accord de paix. Ça fait 40 ans qu'on parle de violence. Ça fait 40 ans que les heurts continuent, évidemment. Quelle bataille, quel enjeu?
Pourquoi 40 ans? Pourquoi pas 73 ans?
Ou pourquoi pas, vous avez raison. Oui. Moi, je disais, les 40 dernières années, on a quand même vécu quand même de vraies escalades, d'affrontements. C'est ce que je voulais dire par là.
Bon, le point de départ, qu'il y a deux peuples et un seul pays, et que ces deux peuples n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le partage. Donc les résultats, après, moi je compte à peu près un siècle de conflits entre juifs devenus israéliens et arabes de la Palestine devenus palestiniens, c'est presque un siècle. Depuis les débuts du mandat britannique, depuis 1920-1921, il y a déjà des heurts entre deux communautés. La communauté juive était beaucoup plus organisée, beaucoup plus politisée, mais chez la communauté palestinienne, disons embryonnaire, il y avait déjà quelques intellectuels, quelques revues, il y avait déjà un discours, il y avait un récit national qui commençait à se mettre en place, et une petite partie de cette société était nationalisée. Depuis, malgré plusieurs tentatives, deux communautés n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Aujourd'hui, il y a trois entités.
Aujourd'hui, il y a trois entités. Il y a l'État d'Israël, avec à peu près 20% de ses citoyens qui sont des Arabes palestiniens, si on veut, mais qui sont citoyens des Arabes israéliens. Certains se voient comme palestiniens. Oui. Donc, c'est à peu près. Les Arabes des 40, qui sont restés en 49, la plupart c'est les Arabes de 49 et leur descendance.
Oui.
Donc ça c'est un modèle d'un seul État avec une seule nation.
Oui.
Donc il y a la nation israélienne, mais les citoyens arabes n'ont pas des droits collectifs.
Sauf qu'aujourd'hui, pardonnez-moi Gilles Mikhaïli, au cœur évidemment de ces tensions, eh bien c'est la colonisation de Jérusalem-Est. C'est ça qui a provoqué évidemment cette escalade. Pierre Henry, Thomas Guénolé, Karim Alouach, je voudrais vous entendre évidemment et confronter vos points de vue.
Oui, on ne peut que se féliciter du cessez-le-feu et avoir une pensée pour les 242 victimes, 230 je crois du côté palestinien, 12 du côté israélien. Et si, oui, on peut regarder aussi les choses d'une façon cynique avec ce cessez-le-feu. Gaza est détruite partiellement. Gaza va se reconstruire, la communauté internationale va amener de l'argent et dans 3 ans, on peut penser qu'il y aura un nouveau conflit et qu'on va recommencer comme cela. En réalité, Israël a évidemment droit à la sécurité, à la liberté, mais rien ne peut se construire sur des bases de la colonisation. Et ce qui s'est passé à Jérusalem-Est, qui a déclenché en réalité l'ensemble du processus d'affrontement, est significatif. Alors, le vrai problème, c'est que évidemment, et je vais le dire comme ça, le Hamas vote Netanyahou, et Netanyahou, l'extrême droite israélienne, vote Hamas. Et on n'arrive pas à sortir de cette affaire, et la communauté internationale est impuissante à faire respecter
les règles. Alors, justement, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire.
De l'ONU.
Alors, ce que vient de dire Pierre Henry, et notamment Gilles Mikhaïli, Thomas Guénolé, quel est votre point de vue? Est-ce que l'un vote pour l'autre, etc. Et qui finalement, il se trouve un arrangement pour essayer de faire... moi je pose la question. Je ne suis pas là pour confirmer certaines choses. Thomas Guénolé, et ensuite Karim Alouach.
J'essaye de plus en plus, quels que soient les sujets. Vous vous souvenez, mon précédent passage, j'étais déjà dans cet esprit.
Ah bah face à Elisabeth Lévy, je m'en souviens, effectivement. Les auditeurs s'en souviennent encore.
Merci, c'est gentil, mais j'essaye d'être le moins possible dans, comment dire, la simple description des problèmes, parce que en fait ça provoque à mon avis une sorte de dépression collective, et j'essaye au maximum de faire des propositions et des suggestions pour améliorer les choses. Donc il y a déjà suffisamment de gens qui font des diagnostics, j'aimerais de mon côté faire plutôt des propositions. Première proposition, je sais que c'est sans doute inattendu quand on parle de comment aboutir à la paix, je pense qu'il est urgent de réformer le mode de scrutin de la Knesset.
On n'y pense jamais. Après je laisserai chacun évidemment échanger, c'est l'intérêt du grand déballage.
On n'y pense jamais, mais une des raisons pour lesquelles, côté israélien gouvernemental, il y a une vraie difficulté à approuver tel ou tel plan de paix, c'est parce que la Knesset fonctionne à la proportionnelle intégrale, et donc vous avez, de plus en plus souvent, vous avez besoin de faire un accord, pardon de le dire comme ça, avec telle ou telle micro-formation qui va être extrémiste, ou pardon de le dire, dans certains cas, dans certains cas partiellement dingue, et c'est en se mettant d'accord avec telle ou telle micro-formation, objectivement marginale, que vous arrivez à avoir votre majorité à la Knesset.
Sauf que quand vous allez vouloir négocier un tel ou tel plan de paix avec le côté palestinien, quel que soit votre interlocuteur, votre cabinet israélien, sur les 10 sujets importants, le gouvernement...
Il met les doigts dans le plat, là. Attendez, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, vous deux.
Le gouvernement, dans ce cas-là...
Va voter.
C'est fondamental. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que la Knesset fonctionne différemment. Par exemple, il n'y a pas besoin nécessairement de mettre un scrutin qui pose d'autres problèmes comme en France, où en fait l'Assemblée nationale n'est pas du tout représentative des poids différents dans l'opinion. Mais moi, je suggère que la Knesset, désormais, soit élue à la proportionnelle, ok, mais avec un barrage à 10%. C'est-à-dire que si vous faites moins de 10, alors, vous n'êtes pas à la Knesset.
Thomas Guénolé.
Et là, vous aurez plus de
questions. Karim Alos, je reviens vers vous.
Parce que Gilles Mikhaïli. Excusez-moi, juste, je précise, ça veut dire, il faut se mettre à leur place de 2 secondes, ça veut dire que quand un gouvernement, s'il lui prenait demain l'envie de valider tel ou tel accord de paix, il prend le risque de tomber immédiatement parce que telle microformation.
Ah, mais justement, Gilles Mikhaïli. Dans l'ordre, Gilles Mikhaïli, Karim Alouaz.
C'est ce qui vient de se passer, encore une fois.
Oui, c'est ça, mais c'est ça.
Netanyahou était en difficulté.
Il est encore en difficulté.
Son gouvernement.
Exactement.
Et donc, l'extrême droite israélienne a joué le pire, une fois de plus.
Gilles Mikhaïli, Karim Alouaz.
C'est une excellente proposition à laquelle, évidemment, je me rallie.
Allez-y. Merci.
Alors, allez. Moi, je suis de l'avis contraire.
Alors, pourquoi ? Dites-nous tout.
Je pense que le premier. Le premier objectif, la première mission d'un système démocratique, c'est de produire de la légitimité. Mmh. Alors, certains machines à légitimité rendent la gouvernabilité difficile. C'est pour cela qu'on a en France, on les gendes noires, la 4e République. C'est ingouvernable. Ces trucs ingouvernables entre 46 et 58 a tout fait. Si on avait les deux cheveux, les 30 glorieuses, les Mirage 3C, les immeubles immondes sur la Côte d'Azur, mais qui ont permis à tout le monde de partir en vacances, c'est pas De Gaulle qui les a fait en 58-59. Et donc, en changeant de gouvernement comme des chaussettes, on a quand même fait pas mal de choses. Tandis que la 5e République, aujourd'hui, est très gouvernable, mais illégitime. Et donc, le président le plus fort du monde occidental, après 6 mois, il ne peut plus rien faire. Et il n'a même pas un parlement avec qui discuter, il discute avec la rue.
Alors, sur la proposition, de Thomas Guénolé.
Pour revenir en Israël.
Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord
Avec un seuil encore plus bas que le seuil actuel qui est de 2,5 ou 3,5%.
C'est ça.
Il y avait la paix avec l'Égypte qui a déchiré Israël.
Israël.
OK, il y avait aussi le retrait unilatéral des Gaza en 2005 qui a obligé Israël de passer par ce qu'on appelle les Big Bang. C'est à peu près la République en marche, c'est-à-dire Eric Sharon qui était celui qui après la guerre de Kippour a créé les Likoud, quitte les Likoud pour créer un autre parti. Et juste pour revenir pour tomber sur nos pattes ici avec cette guerre-là, à peu près au même moment où Eric Sharon tombe dans le coma en janvier 2006, le Hamas gagne les élections dans la bande de Gaza.
Gilles Mikhaïli, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la proposition et pour quelle raison?
Parce que si on a vu les violences entre citoyens arabes et citoyens juifs d'Israël. Pourquoi ça n'a pas allé plus loin? Pourquoi ça restait plutôt marginal? Parce que les Arabes sont représentés dans la Knesset.
Oui.
Les Juifs immigrent en masse de la Russie.
Comment, Pierre-Henri? 12%.
Ils sont représentés dans la Knesset.
Mais vous avez dit tout à l'heure que ça représente 20% de la population israélienne.
Oui, mais il n'y a pas 50% des femmes, il n'y a pas 11% des rouquins. Il n'y a pas 11% des rouquins. C'est-à-dire, ils sont fortement représentés, beaucoup plus que, par exemple, le Front National au Parlement français. Ils font 35% de la présidentielle.
Je vous ai absolument pas dit qu'il faut adapter la
juste la 5e République. Laissez-le finir, Thomas Guénolé, s'il vous plaît. Donc laissez-le finir, Gilles Mikhaïli, je vous donne la parole.
Dans une société avec des juifs ultra-orthodoxes, des juifs ultra-libéraux de Tel Aviv, des arabes israéliens, sans entrer encore dans les trucs d'Ashkenaz et des séfarades, etc., l'une de choses qui tient ensemble la société israélienne, c'est cette représentativité. Mmh. Les juifs, 1 million de juifs, plus ou moins, arrivent de l'URSS, de l'ancien URSS en
l'ancien
Israël.
RSS, oui.
En 2012, enfin, pardon, oui. en 92, ils ont déjà ils arrivent en 87, 8, 9. En 1992, ils ont déjà des députés, ils ont déjà un ministre. Voilà. Regardez combien d'années en France, après les débuts des vagues d'immigration, de fait qu'on n'est pas représenté, qu'il n'y a pas assez de ceci, qu'il n'y a pas assez de cela. C'est très important.
Karim Alouache, je vous donne la parole et ensuite, avec beaucoup de retard, et je suis désolé auprès de Maître Philippe-Henri Honegger, évidemment, on l'est entendu avec son billet d'humeur. Alors, Karim Alouache.
Moi, tout d'abord, je me réjouis d'un accord de cessez-le-feu, mais si vous avez regardé ce matin, il y a encore...
Non, mais Pierre, est-ce que vous l'avez entendu, ce qu'il a dit sur le cessez-le-feu?
Oui, oui.
Il a pointé du doigt quelque chose de très intelligent.
Il y a encore eu des heures ce matin sur les
voilà. Mosquées.
Moi, je pense que, très sincèrement, on était très proche d'une paix, ou en tout cas, c'est... Là où on s'est le plus rapproché de la paix, c'est en 95 avec Yitzhak Rabin et d'ailleurs ça explique l'attentat contre lui. Je crois aussi, j'essaye de raisonner
et Yasser Arafat,
Bill Clinton.
Et là je pense que nous étions les plus, c'est là où nous avons été les plus près d'un accord de paix. La deuxième chose que je dois dire, c'est facile, là on est ici, on ne vit pas là-bas, on n'est pas sur le terrain.
Oui, mais attendez, Karim, vous dites quelque chose d'intelligent.
Je pense...
Karim Alouache, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous dites, le conflit existe là-bas. Vous avez raison. Sauf qu'on est en train d'assister, dans les quartiers populaires, et malheureusement, si vous voulez, à un conflit qui est importé.
Non mais
vous ne me direz pas le contraire.
Non mais le
conflit, c'est une réalité.
Attends, je vais terminer.
Parce que symboliquement,
je vais terminer.
Dimension.
Il y a aujourd'hui deux extrêmes qui se tapent dessus, et comme tu l'as dit, Pierre-Henri, il faudra 3 ans pour reconstruire Gaza. Bonjour pour importer des matériaux de construction, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même un embargo et que c'est compliqué. Et qui subit tout ça? C'est la société civile, en fait.
Oui,
c'est
oui,
ça, la réalité.
Et rappelons que c'est pas un...
Et c'est pas en faisant des résolutions à l'ONU, je crois qu'on en a 240 ou 252, tout ça, ça n'a pas fait avancer les choses. Il faut aussi avoir une réalité de terrain. Moi, je pense, je comparerai jamais la République française avec l'organisation politique israélienne et ce qui se passe là-bas. Ça
comme vient de le faire Gilles Nathalie.
Je vous rappelle que le premier député d'extrême droite est arrivé en France avec la proportionnelle.
Ouais.
Petite parenthèse.
Parlez dans le micro, Thomas Guénolé.
Si on est démocrate, ils ont leur place au Parlement. Je comprends pas le raisonnement.
Petite. Quand vous avez une structure politique ou qui vous oblige de parler avec tout le monde, parce qu'il n'arrive pas à former un gouvernement. Vous avez parlé des juifs extrémistes orthodoxes aussi, qui maintenant ont leur place, hein, et qui sont aussi contestés au sein de la société. Moi, je crois que la solution, elle viendra de l'intérieur. Elle ne viendra pas de l'extérieur.
Quand vous dites l'intérieur, c'est qui? La
l'intérieur,
population
c'est la population israélienne, qui est aussi une partie de la population qui en a marre. Bon, de ce conflit, qui se sent pas, qui veut la paix d'ailleurs. Hein,
oui. Ça dépend de quelles conditions, quand on regarde les sondages.
Qui veut la paix. À chaque fois qu'on est calme, il y a toujours un événement, une colonie, quelque chose qui va rallumer le feu, comme si on remettait en fait de l'essence sur le feu. Et comme vous l'avez dit, la réalité, c'est qu'on a quelqu'un qui est poursuivi par la justice, qui a intérêt à ce qu'il y ait des heurts, parce que tant qu'il y a des heurts, eh ben on a besoin de quelqu'un qui est capable d'aller au combat et de dire attention, l'ennemi est là, hein, et on fait tous front.
Vous parlez de qui?
Contre l'ennemi, ben Benjamin Netanyahu. Mais c'est clairement ça, et on le voit, et c'est la population civile qui subit tout ça.
Je redistribuerai la parole. Thomas Guénolé dans l'ordre, Pierre-Henri, Gilles Mekhaïli, parce que tout le monde veut répondre.
Alors
tout
de suite, je voudrais juste dire un dernier point. Un dernier point qui est important. Comme moi, je ne supporte pas qu'on nous assimile en tant que musulmans au terrorisme, etc. J'ai des amis dans toutes les communautés, amis ou pas amis, peu importe. Il ne faut pas non plus assimiler la communauté juive de France et du monde à ce qui se passe en Israël. Parce qu'il y en a beaucoup qui condamnent, et je ne veux pas, porter le discrédit sur une communauté. Comme moi, je ne veux pas qu'on m'assimile, dès qu'il y a un attentat terroriste, islamiste et tout, à ce que tous les musulmans ressemblent à ça. C'est important de le dire aussi.
Le quoi de neuf?
Parce que tu as parlé d'importation du conflit dans les quartiers.
Non, mais vous avez raison. Ouais, on va continuer d'en parler. Juste le billet d'humeur de Maître Philippe-Henri Honegger.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Bonjour, maître.
Bonjour.
Bonjour, maître. Désolé, maître. Je devais vous prendre à 18h comme chaque vendredi pour votre billet d'humeur. Votre regard, vous avez décidé de parler de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale.
Oui,
racontez-nous, dites-nous tout, mon cher maître Philippe-Henri Honegger.
Un tout autre sujet que celui que vous parlez à l'instant avec vos invités, parce qu'effectivement, le Conseil constitutionnel est venu rendre aujourd'hui une décision qui est venue d'ailleurs censurer en grande partie la loi sécurité globale. Vous savez, la loi sécurité globale, c'est cette loi portée par M. Darmanin il y a quelques mois et qui avait à l'époque fait grand bruit, notamment en raison de son texte dont le but, dont on disait que le but de ce texte était d'interdire de filmer les policiers en fonction.
Ouais.
C'est pas exactement ce que prévoyait le texte, mais en tous les cas, c'est en raison justement de son imprécision, de l'imprécision que ce texte, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le texte, indiquant entre autres une incertitude sur la portée de l'intention exigée de l'auteur du délit. Parce que effectivement, vous savez, les rédacteurs du texte à l'époque avaient bien compris qu'on leur donnerait jamais la possibilité de totalement interdire de filmer les policiers.
Ouais.
Et donc, ils avaient glissé des conditions un peu floues en disant au cas où on filme parce que le but c'est de diffuser, parce qu'on va porter atteinte aux policiers. Bref, sur un malentendu, ils se sont dit que ça allait peut-être passer. Sur un malentendu, c'est pas du tout passé parce que le Conseil constitutionnel n'a pas été dupe. Une fois encore, était le rempart qui protège nos droits les plus fondamentaux face aux tentatives de plus en plus pressantes de revenir sur les principes qui fondent notre état de droit. Et je dis ça parce que quand on prend un peu de recul, rendez-vous compte que depuis un an, toutes les lois en matière pénale ont, sans exception, toutes été censurées par le Conseil constitutionnel. La loi Avia qui voulait censurer, vous savez, par des acteurs privés sur Internet, la loi sur le bracelet électronique socio-judiciaire post-incarcération pour les terroristes, la réforme de la procédure pénale Covid,
ah,
et là encore, la loi sécurité globale.
Oui.
En fait, quand on prend un peu de recul, on se dit que c'est quand même très inquiétant. Ça veut dire que nos hommes politiques qui sont au pouvoir, ils sont incapables de proposer des lois qui ne viennent pas directement violer nos droits les plus fondamentaux. En fait, on a au pouvoir des gens dont le métier est de faire des lois et qui n'arrivent pas à faire autre chose que de violer ces principes, même qui les dirigent. C'est comme si vous aviez en équipe de France un footballeur attaquant qui tire systématiquement en dehors du but. C'est un peu inquiétant. Et je dois dire que la résistance du Conseil constitutionnel face à l'ensemble de ces lois a quelque chose, en revanche, de plutôt rassurant.
Ouais.
Et que je vois là une sorte d'acteur assez méconnu du grand public, mais qui va jouer un rôle fondamental aujourd'hui dans notre démocratie. Et qu'au regard, vous savez, les propositions les plus farfelues qui se multiplient depuis quelques semaines en vue de l'élection présidentielle, vous savez, là, juger les fous, juger les morts, juger les parents, juger à peu près tout ce qu'on peut juger pour les condamner. Ben, je dois dire que peut-être qu'on va avoir un grand besoin d'un Conseil constitutionnel très fort, très ferme, qui sera peut-être notre dernier bouclier face à cette tentation autoritaire qui est aux portes du pouvoir.
Et je vous l'accorde, c'est vrai, finalement. Vous avez souvent été précurseur, vous, hein, Maître Philippe-Henri, en égard sur notre antenne. Gilles Merailles, attendez, qu'est-ce que vous voulez ?
Et si ça arrange les politiques ?
Ah, Maître en égard, qu'est-ce que vous répondez ?
Ils disent ce qu'ils veulent, ils savent que derrière, quelqu'un va le rattraper.
Oui.
Et en plus, c'est pas de leur faute.
Qu'est-ce que vous répondez, Maître ?
Non, mais c'est sûrement une part du calcul politique, mais j'espère qu'à un moment donné, la population se rendra compte que avoir des gens au pouvoir qui agitent les bras en sachant que ça sert à rien, c'est peut-être pas ce qu'on a de mieux pour faire des lois qui seront efficaces, quoi.
Bien, l'année prochaine, ça sera l'occasion de l'échanger.
Voilà.
Voilà.
Vous avez entendu, Maître ?
Oui, j'ai entendu. Ouais, bien
comme sûr. Chaque semaine, vous suscitez le débat, et ben le débat continue, y compris sur les réseaux sociaux. Vous savez que les auditeurs vous suivent maintenant.
Ah oui.
Ah,
on a des
je peux vous dire. Hein.
Comment des auditeurs.
Bien sûr.
Ah ben bah, dis donc.
Eh oui, pourquoi ça,
tout... Il y a même des mesures d'audience.
Ah, mais écoutez,
ça
marche.
C'est une radio, ça.
Ah bah c'est une radio et qui marche très très bien, figurez-vous. Et partout en France. Partout en France. Et évidemment, on l'aura compris de avec beaucoup d'ironie. Maître Philippe-Henri Honegger, à la semaine prochaine avec autant
à
de plaisir.
Bien sûr. Ouais.
Portez-vous bien, 18h12. Ouais. On va marquer une pause dans quelques minutes. Je te redistribue la parole. J'ai sur les réseaux sociaux Gilles Merailles, justement, on vous interpelle. Tiens, vous parlez des auditeurs. Les auditeurs vous demandent la chose suivante. Ils disent, attendez, je l'ai complètement perdu, mais je l'ai de mémoire. Si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de Thomas Guénolé, mais qu'est-ce que vous proposez pour sortir de ce cessez-le-feu et pour sortir évidemment de tout ça, y compris.
Et compris. Du cessez-le-feu, attendez.
Oui, pardonnez-moi. Là, c'est vrai. Vous m'aurez compris.
De sortir de ce conflit, on va dire.
De ce conflit, c'est,
voilà,
non,
moi,
c'était un lapsus.
Une barrière à 10% pour les partis. Représenter la Knesset, qu'on arrête d'avoir des.
Là, les auditeurs sur Twitter, ils interpellent Gilles Merailles.
Non, je le rappelle,
qu'est-ce
pour
que
les auditeurs qui.
Voilà, absolument. Alors.
T'as raison,
c'est... Et la politique de Benjamin Netanyahou.
Alors, je dois décevoir. C'est
beaucoup de commentaires.
Notre auditeur, ces conflits durent depuis un siècle. OK. Pour prendre un autre exemple, on pensait avoir enterré à tout jamais les conflits en Irlande. Et là, le fait que les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne, ça a ravivé les tensions et ça commence à être assez tendu à Ulster, dans le nord de l'Irlande, dans le secteur britannique, et on parle même de...
Finalement, vous êtes favorable au statut...
Pierre Henry.
Non, mais ce que je veux dire, ce sera... Je ne dérange pas.
Pardon de vous poser cette question, mais au bout d'un moment, il faut essayer d'avancer dans le débat.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour un conflit qui dure depuis un siècle, où des gens expérimentés, intelligents, légitimes, ne sont pas arrivés à trouver une solution, je ne vais pas maintenant donner la recette parfaite, comment s'en sortir. Alors, en même temps, il y a une piste que j'aimerais bien mettre en avant.
Allez-y.
Ce sont justement les Arabes israéliens.
Oui.
Depuis la dernière fois que la gauche était vraiment au pouvoir, c'est-à-dire depuis le début des années 90, l'une des stratégies de la droite était de délégitimer les voix des citoyens arabes israéliens. Pour avoir un accord de paix avec les Palestiniens, c'est pas juste, c'est pas légitime de compter les doigts des Arabes parce qu'ils sont des Palestiniens. Donc évidemment, ils votent pour ce qui arrange les autres. Et donc, ils font ce qu'on appelle une majorité juive. Alors, figurez-vous, que c'est Benjamin Netanyahu qui, à cause de ces systèmes que notre camarade ici...
Thomas Guénolé.
C'est à cause de ces systèmes que Thomas Guénolé critique, que Benjamin Netanyahu, lui, pas un autre, était obligé, il y a quelques mois, de légitimer une partie arabe, et pas la plus tendre, c'est le parti islamiste des Arabes israéliens, parce qu'il a fait ses calculs, il se disait que sans eux, il n'a pas de majorité. Pour quelle raison ? Et donc, ça là. Donc, depuis quelques mois, ils sont les meilleurs amis du monde. Les députés arabes disent ils pensent, mais ce qui est important pour moi, ce sont les écoles, c'est la sécurité, c'est l'éducation des enfants.
Alors, Thomas Guénolé n'a pas l'air de comprendre. Dites-nous.
Donc, je pense que remettre les Arabes israéliens au cœur du jeu politique israélien, ça ne va pas arriver demain, mais ce que Netanyahu a fait, il ne pourra pas défaire. Il les a remis parce que ça l'avait arrangé, mais maintenant ils sont là. Donc je pense que avec eux, beaucoup de choses sont possibles.
Alors, Gilles Mekhaïli, Thomas Guénolé, évidemment, devrait réagir Karim Alouache et Pierre Henry.
Deux choses.
Et après, je dois lancer la pub. Voilà,
deux choses. D'abord, moi, ce que j'ai proposé, donc, c'est qu'à la Knesset, dorénavant, si vous faites moins de 10% des voix, vous n'avez pas de députés. Et donc, les formations. Les petites formations extrémistes ne pourront plus bloquer des processus de paix parce qu'ils ne seront même pas à la Knesset, donc par définition ils ne pourront pas non plus être au gouvernement. Si vous mettez une barrière à 10%, sauf erreur de ma part, vous allez vous retrouver avec 3
ou 4... Mais qu'est-ce que vous répondez à Gilles Mekhaïli ?
Attendez, je termine. Oui. Vous allez vous retrouver avec 3 ou 4 grandes formations politiques avec cette proportionnelle rationalisée. Donc je maintiens effectivement qu'en faisant comme ça, les gouvernements ne seront plus otages de formations extrémistes,
Thomas,
quel que soit
Thomas
leur type.
Guénolé.
Deuxième chose...
Non mais attendez, Thomas, juste avant la suspense, deuxième chose, on y arrive, je suis contraint de lancer la pub.
Pas de problème.
À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, 01 53 48 3000. J'ouvre également l'antenne partout en France. Vous pouvez réagir aux tensions, aux conflits évidemment, à Jérusalem-Est, réagir aussi aux propos tenus par les débatteurs. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Le grand déballage revient dans un instant. Peur FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
On reprend le grand déballage à 18h24, si vous venez de nous retrouver, sachez-le. Et ici même, en direct, avec Gilles Mekhaïli, qui est le patron, le directeur de publication de Causeur. Vous savez qu'Elisabeth Lévy, elle vient régulièrement chez nous. Hein.
Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là.
C'est pour ça que vous êtes là, notamment face à notre ami Thomas Guénolé, Pierre-Henri, le patron de France Fraternité, mais également aussi un acteur politique et chercheur au sein de l'IPSE. Karim Alouache, financier au sein de la banque, mais également aussi un acteur politique chez Bondy. Et enfin, notre sociologue, c'est Thomas Guénolé. Messieurs, un tour de table, et ensuite après, je vous ai interrompu, Thomas Guénolé.
Je vous en prie.
Le second point, vous avez dit. on passe au second sujet. J'ai envie qu'on parle aussi de Benzema, donc allons-y.
Je vous disais en ouverture tout à l'heure que j'essaye au maximum de faire des propositions plutôt que de décrire les problèmes ad nauseam. Et donc, deuxième proposition, parce que quand on parle de la paix c'est bien, bon, laquelle et à quelles conditions? Il se trouve que des représentants de la société civile israélienne d'une part et palestinienne d'autre part sont allés jusqu'au bout de la négociation d'un plan de paix. C'est trop peu connu, ça s'appelle l'initiative de Genève. J'invite les auditeurs que cela intéresse à regarder ça sur Internet. Je vous la résume en trois points, ou quatre. Jérusalem-Est devient la capitale de l'État palestinien. Deux, les gens qui sont des Palestiniens, dont les ancêtres, ou alors eux-mêmes, pour les plus vieux, ont été dépossédés de leurs terres, sont indemnisés financièrement par Israël. Et trois, les différents pays qui sont disposés à accueillir les Palestiniens sans terre, y compris Israël, mettent des quotas. Mais pour les accueillir, et il y a une précision un peu technique, les différents pays qui accueillent définissent des quotas, et la moyenne de ces quotas donne ce qu'Israël est obligé d'accueillir en plus des Arabes israéliens qui existent déjà. Voilà en gros à quoi ressemblerait un accord de paix négocié, je le répète, par des gens qui en plus étaient les équipes de négociation autour de Barak et Arafat. Puisque c'était la dernière tentative sérieuse d'aboutir à un plan de paix. Donc je le répète pour les auditeurs qui nous écoutent et que ça intéresse, il s'agit de l'initiative de Genève, vous trouvez ça sans problème sur Internet, il y a même une page Wikipédia dédiée.
Alors, je vais ouvrir l'antenne tout de suite, si notre réalisateur veut bien lancer la petite virgule.
Le grand déballage, parole d'auditeur.
Très important parce que la parole d'auditeur ici occupe ici l'espace. 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre partout en France. Raphaël, vous nous appelez de Saint-Étienne, mon cher Raphaël. Bonjour Raphaël.
Azul Felawen, salam alaikum, bonjour.
Bonjour, bienvenue, on vous écoute mon cher Raphaël, allons-y.
Alors, je suis content déjà, première chose, de pouvoir participer, donc d'être à l'antenne.
Oui.
Et la deuxième chose, je vais essayer peut-être de donner un point de vue très modeste d'un Français laïque.
Oui.
Je pense que ça peut être intéressant.
Allez-y, on vous écoute justement, soyez précis et concis.
Alors, je vais essayer d'être précis et concis. Pour moi, le conflit qui se passe Israël-Palestine, donc au Moyen-Orient, est un conflit qui date de très très longtemps et qui, je pense, malheureusement, est insoluble dans l'état actuel des choses.
Ah.
Je m'explique. On a eu d'autres exemples dans d'autres régions du monde où il y a eu sans cesse des conflits. Je vais donner pour moi, mais je dis bien pour moi, une des raisons, et puis après, libre à tout le monde de les exprimer.
Ils sont là, ils vont répondre. Allez-y.
Voilà, je pense que du moment que nous avons des gouverneurs, ou des gouvernements, ou des dictateurs, peu importe comment vous les appelez, qui mettent en place des régimes totalitaires basés sur principalement la religion, pour moi, c'est donc inconcevable avec la liberté que je défends partout. Je fais partie de la communauté française, mais aussi Amazir, c'est-à-dire je me reconnais en tant qu'homme libre.
Oui.
Donc Agbeili, comme on appelle, mais surtout Amazir.
Oui.
Pourquoi? Parce que je défends le peuple berbère en Algérie et partout en Afrique du Nord. Je défends le Kurdistan. Je défends tous les peuples libres qui souhaitent s'émanciper. Et je pense que, quelle que soit la région du monde, quelle que soit la religion, ou entre guillemets, le prétexte qu'on va donner...
Oui.
Du moment qu'on empêche la liberté, la laïcité,
on a bien compris.
Pourra pas avoir la paix.
Voilà. Merci Raphaël, merci, on va vous répondre. Qui souhaite répondre?
C'est mon point de vue.
Oui. Non mais vous l'avez exprimé en toute liberté d'expression. Raphaël de Saint-Étienne, merci à vous. 01 53 48 3000. Qui souhaite répondre à Raphaël? Gilles Mekhaïli.
Quelque chose. L'élément qui structure le système international, et la réponse est déjà dans les termes que je viens d'utiliser, c'est le sentiment national, ou si on veut, le nationalisme. C'est un phénomène, c'est pas en idéologie, parce que ça tient en trois lignes. C'est très pauvre idéologiquement, mais c'est extrêmement puissant psychologiquement, c'est extrêmement puissant anthropologiquement. C'est le phénomène qui a fait que quelqu'un des Saint-Jean-de-Luz se sent beaucoup plus proche de quelqu'un qui habite à Colmar que quelqu'un qui habite à 1 kilomètre au sud, en Espagne, sous les mêmes, qui est mouillé par la même pluie, qui mange la même nourriture et qui est brûlé par le même soleil. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous a pris tous de cours depuis 2 siècles. Mais c'est l'élément qui structure aujourd'hui le monde. On peut rien faire. Et depuis qu'on a essayé d'organiser le monde selon ces critères, ça a réglé certain nombre de problèmes et ça crée autant de problèmes ailleurs. La couverture est trop courte. Et donc nous sommes aujourd'hui avec un certain nombre de conflits, que ce soit au Maroc, au sud de Maroc, que ce soit en Turquie, que ce soit entre dans le nord de péninsule de la sous-continent indienne, etc. Donc on a énormément de conflits autour de ça. C'est toujours un mélange de nationalisme et des religions. Et on n'est pas prêt à s'en sortir. Peut-être un changement de paradigme un jour, mais les empires multi-ethniques, c'était pas le bonheur non plus.
Donc, 01 53 48 3000, pardonnez-moi, Gilles Michaeli.
Désolé pour la description.
Voilà. Mais en tout cas, on est obligé d'avancer. Non.
Moi, dans le cas des Palestiniens, je dirais plutôt que c'est du souverainisme. Je m'explique. Le souverainisme est un cas particulier de nationalisme qui se manifeste par la volonté d'indépendance ou au minimum de plus d'autonomie vis-à-vis d'un pouvoir qui les domine. Et donc, dans le cas des Palestiniens, je pense qu'on a affaire à du souverainisme. Je sais que c'est inattendu, mais je ne vois pas pourquoi on parlerait de souverainisme dans le cas des Québécois vis-à-vis du Canada, et on ne parlerait pas de souverainisme dans le cas des Palestiniens vis-à-vis d'Israël.
01 53 48 3000, vous continuez de nous appeler partout en France. Second sujet, messieurs, je suis obligé, 18h30, on est contraint d'avancer. Les attaques contre la justice ne passent pas. Les magistrats sont montés au créneau, ils ont répondu aux critiques scandées par des policiers lors de la manifestation de mercredi dernier que vous avez suivi. La justice, eh bien, on la pointe du doigt de laxisme. Est-ce que tout ça ne deviendrait pas un peu très politique, Pierre-Henri ? Et je fais un tour de table.
Ça l'est, évidemment. Les manifestations de policiers devant l'Assemblée nationale, la dernière manifestation, les propos des responsables syndicaux, finalement, à caractère putschiste, disant que, après tout, si cette manif prend... eh bien, on se libérera d'un certain nombre de contraintes de la loi, on bousculera la Constitution, sont tout simplement inqualifiables. Le problème, c'est que dans...
Sauf que là, la police, elle change de camp, j'ai l'impression.
Oui, mais je sais pas si elle change de camp. Ce que je pense,
on peut se poser
surtout,
la question.
C'est l'irresponsabilité d'un certain nombre
question,
de politiques qui sont allés manifester, ajoutant à la confusion générale. La place des politiques n'était sans doute pas autour de la manifestation syndicale qui a été organisée.
On a salle le débat. Thomas Guénolé, Karim Alouache, Jim Mekhaïli. Thomas Guénolé.
Au sens de... Comment dire ?
Il ne vous répond.
Quand un policier est tué, c'est une tragédie pour sa famille et pour
mais c'est
qui
évident.
Les aimait. Attendez. C'est un traumatisme collectif pour tous les gens qui sont policiers et qui s'identifient à lui. C'est une émotion pour les gens qui voient ça à la télé. Et par ailleurs, pardon de le dire, c'est un fait divers. Ce n'est pas une preuve d'un soi-disant pays qui serait à feu et à sang. C'est faux. Je veux être clair là-dessus.
Vous répondez à tous ces intellectuels qui défilent dans les plateaux télé. Je vois où vous voulez en venir.
Donc,
je vous vois arriver.
Et je vais pas me contenter de vous le dire. Je vais brièvement vous le prouver. Quand on donne des chiffres sur combien de plaintes, etc., à la police, etc., pour mesurer l'insécurité, pourquoi c'est débile ? Parce que d'une part, tout le monde ne porte pas plainte, et d'autre part, objectivement, ce sont simplement des indicateurs de l'activité de la police. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle, chez l'INSEE, les enquêtes de victimation. C'est-à-dire, on pose la question à la population, dans des sondages de très grande ampleur, est-ce que vous, sur les deux dernières années, vous avez été victime d'un vol, d'une agression, etc. ? Voici les résultats de la dernière en date. D'accord ?
Oui.
Si vous parlez de vol, d'agression, de cambriolage, de tout ce que vous voulez, vous avez entre 95 et 97% de la population française qui répond « Je n'ai été victime d'aucun vol, d'aucune agression, d'aucun cambriolage, etc. »
97, je dis.
Entre 95 et 97%, monsieur. Par ailleurs, j'ajoute, c'est comme ça.
Non mais...
L'insécurité est un phénomène rare en France. En revanche...
Tellement rare que ça devient un sujet principal.
En revanche, il est massif dans les journaux télévisés. L'INA a une publication statistique qui s'appelle
l'INA Stat. Oui, le sentiment d'insécurité.
Non, c'est pas la question de sentiment d'insécurité. C'est pas ça. Je le dis parce que c'est
Pierre-Henri, quand on parle de sentiment de sécurité.
C'est pas de ça.
C'est pas la même. Attendez, c'est pas le même angle.
C'est pas les Français qui fantasment. Mais les Français regardent le journal. C'est pas les Français qui fantasment. Les Français regardent le journal télévisé et ce qu'ils voient, c'est la multiplication d'effets divers dans les journaux télévisés, alors que ce sont des phénomènes rares. Et donc, c'est pas les Français qui fantasment, c'est les journaux télévisés qui ont un comportement éditorial irresponsable.
Oh là là là. Écoutez, justement, on va en parler. Je marque juste la pause pub. Je donne la parole à Karim Alouache et Gilles Mekhaïli. Tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
18h41, le grand déballage avec Gilles Mekhaïli, le patron de Causeur, mais également aussi patron de plusieurs médias en ligne. Pierre-Henri, le patron de France Fraternité, mais également aussi chercheur au sein de l'IPSE. Karim Alouache, financier, mais également aussi acteur politique sur la ville de Bondy. Et enfin, le sociologue Thomas Guénolé. Gilles Mekhaïli.
Oui.
La manif des polices. Oui. Des policiers, pardon.
Donc Thomas disait tout à l'heure que le fond de problème, c'est les représentations médiatiques.
Oui.
Sourd-médiatisation des événements de faits divers. Alors, je voulais juste dire que les médias des masses sont consubstantiels avec les crimes. Si vous avez le temps de lire, il y a un ouvrage magnifique d'un historien qui nous a quittés trop tôt, qui s'appelle Dominique Khalifa, qui s'appelle « L'encre et les sangs ». Depuis le milieu du 19e siècle, c'est les sangs, les crimes, les empoisonneuses, les meurtres, dans les détails les plus sordides qui font qu'on vend 1 million d'exemplaires, oui, 2 millions d'exemplaires, 3 millions d'exemplaires, oui. les petits journaux illustrés.
Oui.
Par hasard. C'est, oui. Quand est-ce que les genres de romans policiers est né
c'est
en
vrai,
France et après en Angleterre
le terrorisme commence
année
avec
1860, 1870, 1880. Il n'y a pas des médias des masses sans horreur, terreur, sans...
Là vous répondez,
etc.
Là vous taclez.
Notre régime télévisuel, c'est quoi? C'est des séries policières. Fabienne, la policière de Vosges. Michel, la policière tétraplégique de Bayonne.
Donc vous êtes en train de me dire,
non,
Gilles Mekhaïli, que
juste...
la manif des policiers,
non.
C'est légitime.
Donc je voulais juste répondre, parce qu'on débat, on avance.
Exactement.
Donc je voulais dire qu'il n'y a rien de nouveau, pas parce que ça dure depuis 20 ans, mais parce que c'est consubstantiel. Ce qu'on consomme.
Ce qui est quand même nouveau, c'est que des policiers aillent manifester.
Ça, c'est nouveau. Il a raison.
Remettre en cause
la Deuxième chose,
au-delà de tout ça.
Merci de le rappeler, Pierre-Henri.
Au-delà de tout cela,
Gilles,
il y a un grave problème avec la police en France.
C'est-à-dire,
peu importe si les policiers ont raison ou ils ont tort, la police va très mal, les policiers vont très mal. Et la France a besoin d'une police. Et ce qu'on voit autour de nous, c'est surtout des gens qui ne savent pas exactement comment faire passer les messages,
alors,
que leur institution est en crise et qu'ils sont au bout.
Bah, le message est très clair, mon cher Gilles Mekhaïli.
Bah,
la justice est critiquée de laxiste.
Alors, tant mieux. Parce qu'Éric Dupond-Moretti a réagi. Parce qu'ils font une police, et les policiers, la plupart, la grande majorité des policiers font le travail comme ils sont républicains, mais l'institution est en crise. Et ça, c'est un fait.
Karim Alouache, est-ce que vous êtes d'accord?
D'abord, moi, je trouve scandaleux d'opposer la justice à la police. Et la justice doit rester totalement indépendante. Moi, je suis choqué, dans une manifestation policière, de voir le ministre de l'Intérieur. Qui a sa part? Parce que je suis désolé, soit on met de l'argent dans la police pour des équipements, des effectifs, souvent ce sont les revendications. C'est d'avoir une. Comment voulez-vous que la police soit respectée dans les quartiers? Et je vis dans les quartiers, je vis en Seine-Saint-Denis. Comment voulez-vous qu'elle soit respectée si celui qui est censé en faire quelque chose de bien et d'important ne la respecte pas par les moyens, par le nombre d'hommes, par les véhicules et par tout ce qui va avec et qui l'englobe. Donc c'est assez étonnant. La deuxième chose, je suis désolé, du côté de la justice, moi je jette pas la pierre à la justice. Vous avez vu un magistrat au tribunal de Bobigny, ce qu'il a des dossiers qui vont jusque-là. Donc à un moment donné, quand on a décidé de faire de l'économie dans la police et dans la justice, on fait mal le service public et on rend service à personne. La deuxième chose importante...
Mais je vous laisserai réagir.
On a vu tous les hommes politiques là et certains se faisaient la bise alors qu'ils étaient sur des bords, tu vois. On est en train de monter un espèce de climat de terreur, de soulèvement, d'insurrection. On l'a vu avec la tribune des militaires. Maintenant, on a les policiers. On a l'impression vraiment qu'on veut terroriser la population. Alors, le bon signe, ça veut dire que le Covid ne terrorise plus. Et on est peut-être à la fin du Covid. Il faut trouver un autre sujet. Pourquoi tout ça? Parce qu'on arrive aux élections présidentielles.
Thomas Guénolé dans l'ordre, et ensuite Pierre-Henri.
Et sincèrement, le dernier mot, il y a beaucoup de gens, et moi je le ressens, on a parlé de sentiments, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens et des personnalités politiques qui d'ailleurs viennent se faire parachuter parfois en Seine-Saint-Denis pour faire leurs élections, qui souhaitent et qui souhaitent avant la fin de l'année une espèce d'insurrection des banlieues qui ne se sont pas enflammées ni pendant les gilets jaunes, très calme. Pendant les gilets jaunes, parce que c'est important de le dire, et qui ont été exemplaires pendant la crise du Covid avec une solidarité incroyable.
Thomas Guénolé. Vous l'avez dit.
Oui, plusieurs choses. D'abord, la justice n'est pas laxiste en France. Le taux d'incarcération en France est supérieur à celui de l'Allemagne, par exemple, et il est similaire à celui de l'Italie, de la Belgique, etc. Donc dire que la justice est laxiste en France, c'est factuellement faux, autrement dit, faux. Voilà, premier point. Deuxième point, il existe un embouteillage de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne pénale en France. Ça, c'est vrai, quand les policiers disent on doit mettre des gens
les
derrière,
jusqu'au
etc.
Fond
c'est vrai,
Karine.
Mais ça, les juges ne sont pas responsables de l'encombrement. Tout simplement, le problème, c'est que si vous comparez en revanche le budget de la justice française par rapport au budget des autres pays d'Europe, au prorata de notre population, on est un pays où la justice est sous-financée. Et donc, la justice a besoin de plus de fric, en clair, pour pouvoir avoir plus de juges, plus de greffiers et des procédures plus fluides. J'ajoute par rapport à la police, il y a quand même deux choses qui me semblent urgentes à faire, urgentes, et qui n'ont bizarrement pas été revendiquées par les policiers qui ont manifesté, qui ne sont pas tous les policiers, soit dit en passant. Loin de là, très loin de là. D'abord, je pense qu'il y a un certain nombre de brebis galeuses qui doivent être foutues à la porte de la police, parce que ce sont des racailles en uniforme et non pas des policiers, parce que ce sont des gens qui font preuve qui se comportent comme des brutes. Parce que j'ai lu donc le livre qui s'appelle Flic, qui est un témoignage de journaliste qui a fait une enquête en immersion dans la police, et ce qu'il a vu, il y a plusieurs choses, c'est la honte de l'uniforme. Alors, et j'ajoute, c'est mon dernier point, les contrôles d'identité racistes, parce que ça veut dire ça, contrôle d'identité au faciès, ça pourrit l'ambiance épouvantablement entre les jeunes des quartiers n'ayant pas la peau blanche d'une part, et les policiers en banlieue d'autre part. Oui, et donc oui. Ça, il faut l'arrêter, je vous le rappelais la dernière fois que je suis passé, ça ne sert absolument pas à réduire la délinquance et la criminalité, puisqu'on peut très bien braquer une banque avec son papier en règle.
J'ai le docteur qui m'attend, Pierre-Henri.
Non, la justice manque de moyens, les prisons sont dans un état absolument lamentable, et les politiques, et notamment depuis Nicolas Sarkozy, ont instrumentalisé les faits divers. Et dès qu'il y avait un fait divers, il fallait une nouvelle loi. Et une nouvelle loi pour donner quoi ? Des moyens à la police. Moyennant quoi, on a recruté des gens qui n'ont absolument pas le niveau, la formation, etc. Et ça contribue évidemment à la situation extrêmement dégradée aujourd'hui. Allez, et donc, il y a y compris une conception du maintien de l'ordre qui est à revoir de manière complète. Donc, si on veut être sérieux, il faut travailler sérieusement sur cette question.
Le quoi de neuf, et on parle de Benzema, le retour en équipe de France.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Bonjour docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôtel Les Invalides chez les militaires. Comment ça va mon cher docteur ?
Ça va très bien mon cher Adil.
On vous écoute pour votre billet d'humeur et votre regard sur l'actualité de la semaine.
Que diriez-vous mon cher Adil d'un bon film de Franck Capra ? Vous savez, un de ces bons films, Bon Enfant des années 50 où tout finit bien.
Oui, allons-y.
C'est un peu ce que l'on a eu un peu comme impression d'assister cette semaine en voyant Darmanin manifester avec les policiers qui d'ailleurs ne s'y sont pas trompés et ont hué notre futur Premier ministre.
Oui.
Darmanin à la manifestation de la police, c'est un peu comme si Marine Le Pen allait à une manifestation de sans-papiers
oui.
ou que Carlos Ghosn défilait avec des ouvriers qui protestaient contre un plan de licenciement chez Renault.
Oui.
Là, mais néanmoins, l'information la plus importante de cette semaine, c'est qu'à l'occasion du début du déconfinement, le prix de l'être humain est en baisse. Je m'explique.
Dites-nous.
À Gaza, on continue de brader la vie des Palestiniens qui vaut moins cher que l'honneur de la communauté internationale. Et au Maroc aussi, on a entamé une grande semaine de rabais.
C'est vrai.
Mohamed VI, furieux que l'Espagne ait accueilli pour des soins le leader du Front Polisario, a décidé de le punir en larguant non pas des bombes, mais des migrants, qui ont déferlé par milliers sur l'enclave espagnole de Ceuta, arrivant à par bateau, voire à la nage. Et vous avez été ému comme moi par l'image de cet enfant de quelques mois, plus petit que la bouée qui le portait. Vous me direz, Adil, rien de nouveau sous le soleil. Les Turcs sont passés maîtres dans l'utilisation de la chair humaine. comme arme de guerre quand il menace l'Europe d'ouvrir la porte. Mais là, on a assisté à une grande première, c'est que la majorité de ces migrants étaient de jeunes Marocains, désespérés, parfois mineurs. C'est sans commentaire, mais chacun comprendra ce que vaut un citoyen marocain pour le pouvoir. François Bayrou, quant à lui, propose pour sauver notre système social, un, de relancer la natalité, et je tiens à dire que pour ça, je me tiens à sa disposition, et deux, à faire appel à l'immigration, mais avec un apport limité où tout est régulé et réfléchi. Que faut-il comprendre là-dedans ? Ben, rien de moins que le retour de l'immigration choisie, qui n'est pas bien différente du cynisme d'Erdogan et de Mohamed VI, car elle consiste à prendre les bras quand on en a besoin, et aussi et surtout les cerveaux. Ces mêmes cerveaux qui feraient tant pour le développement de ces pays qui se sont saignés pour les former. Personne n'envisage la seule solution la plus noble, un co-développement respectueux, l'arrêt du soutien aux dirigeants prédateurs. Et tant que cela continuera comme ça, la Méditerranée restera la tombe d'une partie de la jeunesse africaine et les pères nageront avec leurs bébés dans les bras vers Ceuta.
Merci pour ce billet d'humeur. Le Quoi de Neuf avec le docteur Majid Seoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également à l'hôpital aux Invalides, chez les militaires. Merci docteur.
À votre service mon cher.
À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Le grand déballage, le quoi de neuf.
Je voudrais qu'on fasse un tour de table parce que je rends l'antenne à 56 parce qu'il y a l'émission de sport tout de suite après. Gilles Mihaïli, le retour de Karim Benzema. Qu'est-ce que cela vous inspire, dites donc ? Un tour de table en quelques secondes.
Alors pour moi, il y a deux problèmes. Parce que être sélectionné. Parce que je ne connais pas en foot et je me. Disons, je suis l'avis professionnel de gens qui s'y connaissent. Mais puisque il s'agit pas d'un club privé, il s'agit de l'équipe de France, d'une sélection nationale, et il s'agit pas d'un entraîneur mais d'un sélectionneur. Il y a deux problèmes pour quelqu'un qui doit représenter quelque chose en France. C'est l'affaire de Sextape qui n'est pas terminée et l'affaire de l'hymne national. Alors ça me dérange pas du tout que Monsieur Benzema a des sentiments pour l'Algérie. La citation qui court derrière lui depuis 15 ans, ça ne me dérange pas du tout. C'est le pays de ses parents. Il peut avoir des
enfants.
Non, mais je pense que quelqu'un qui joue pour l'équipe de France est obligé de chanter l'hymne national.
Et il la chante, hein.
Il la chante, peut-être.
Il la chante, je confirme. D'accord. Allez, un tour de table. J'ai 1 minute 30. 30 secondes.
Moi, je vais dire,
30 secondes,
je suis
désolé.
Je ne peux pas entendre ce que je viens d'entendre. Parce que dans ce cas-là, il faut parler des frères Karabatic qui ont été condamnés pour trafic de jeu, trafic de match, et qui ont été sélectionnés pour les championnats du monde, et personne n'en a fait une affaire.
Je suis libre vendredi prochain
pour en parler. Il faut à un moment donné arrêter. C'est d'abord, l'affaire, il n'est pas responsable de cette affaire. Deuxièmement, c'est le meilleur attaquant au monde reconnu par ses pairs. Troisièmement, Deschamps a craqué sous la pression du monde du football, sous la pression de tout le monde. Et je vous rappelle que notre premier ministre qui est parti ensuite faire sa carrière en Espagne, Emmanuel Valls, c'est lui qui a mis la pression pour le sort de l'équipe de
vous
France.
Avez,
voilà. C'est pas une affaire d'Algérie ni de Marseillaise.
Le football, c'est un peu plus.
J'aurais dû l'aborder.
Oui, le football, c'est un peu plus que 23 acteurs sur un terrain rectangulaire. Il y a aussi une dimension politique. C'est un homme de talent. Bon retour, Karim Benzema.
5 secondes.
Ah, moi, je suis très content que Benzema soit dans l'équipe.
Allez, c'est très bien. Merci à Gilles Mihaïli. Justement, vous reviendrez ?
Oui, volontiers.
Le patron de Causeur, Karim Alouache, financier, Thomas Guénolet, sociologue, Pierre-Henri.
Et je reviens quand vous voulez, cher Adil.
Évidemment. Allez, on remet ça la semaine prochaine avec autant de plaisir.
L'eau est excellente.
Et l'eau est... C'est bon, alors vous le confirmez ? Bon, parfait. Bien. Alors, et le café ? Non, moyen.
Ça va.
Allez, à la réalisation, c'était Yanis. Merci à Hamid, merci à tout le monde. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. C'est Time Sport, orchestré par Bilal. À la semaine prochaine.
Retrouvez le grand déballage tous les vendredis de...